Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, nous sommes en pleine période des fêtes de fin d'année. Hier, c'était Noël. Et donc, on en profite dès le début de l'émission pour bien sûr vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne année un petit peu en avance, puisque c'est la semaine prochaine, mais une très bonne année un petit peu en avance. Et nous, c'est l'équipe d'Amnesty International Évreux pour notre dernière émission de l'année 2017. Consacré à la promotion et à la défense des droits humains. Et pour en parler ce soir, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Ronan.
Bonsoir.
Voilà, on est tous fidèles au poste.
Et Didier.
Merci Sabine. Voilà, donc ce soir, on va longuement vous parler du délit de solidarité. Puisqu'il est réapparu à notre grand, désagrément, pour ne pas dire plus. Il est réapparu ces derniers temps. On va vous en parler longuement dans la deuxième partie de l'émission. On va quand même vous parler aussi de choses un peu plus positives, puisqu'on est en pleine période des fêtes de fin d'année. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de, pour lancer l'émission, de vous lire un petit texte qui est paru récemment, un petit texte qui est signé d'Anna Neistad, qui est une permanente d'Amnesty International. Et ce petit texte s'appelle « Trois motifs d'optimisme pour les personnes qui défendent les droits humains ». Alors elle dit « Arrêtons-nous un moment sur trois éléments majeurs arrivés récemment. Le général Ratko Mladic, surnommé le boucher des Balkans, a enfin été déclaré coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a requis l'ouverture d'une enquête sur les crimes attribués à l'ensemble des protagonistes, y compris les forces américaines, en Afghanistan depuis 2013. Et puis Robert Mugabe a démissionné de la présidence du Zimbabwe après 37 années au pouvoir marquées par des homicides, la torture et des disparitions forcées. Pour celles et ceux d'entre nous qui travaillent dans le domaine des droits humains, l'importance de ces événements ne saurait être sous-estimée. Une des questions que les victimes de violations, les journalistes et même certains décideurs posent le plus souvent est la suivante. Y a-t-il un intérêt à enquêter et à recueillir des informations sur les violations des droits humains alors qu'elles semblent se poursuivre sans relâche dans le monde entier et que leurs auteurs, en particulier ceux qui sont au pouvoir, bénéficient très largement de l'impunité? Y a-t-il un espoir, demande-t-il? La réponse est toujours oui. Et ces nouvelles informations qui font les gros titres nous rappellent pourquoi il ne faut jamais abandonner. Il est facile de perdre espoir lorsque nous faisons état en détail, d'horribles crimes de droit international commis en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud, au Darfour, en Birmanie, au Nigeria et bien sûr ailleurs, et dans de nombreux autres pays du monde. Il est également décourageant de présenter nos conclusions aux personnes ayant le pouvoir d'arrêter les violations et d'obliger les responsables présumés à rendre des comptes, mais de faire face, au lieu de cela, à des années de déni, de manipulation politique, voire de manœuvres visant à soustraire les responsables de la justice. Les corps s'entassent tandis que les responsables sourient aux caméras, présentent des versions alternatives des faits, se décrivent en sauveurs de leur nation et tissent des alliances, convaincus que leur statut et leur puissant protecteur leur vaudront l'impunité. Ce fut le cas de Ratko Mladic, par exemple, qui, selon l'un des survivants du massacre de Srebrenica, c'était pendant la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie, souriait et donnait du chocolat aux enfants, en promettant que tout le monde s'en sortirait, tandis qu'il envoyait des milliers d'hommes et de garçons à la mort. On trouve des parallèles avec le président Mugabe, donc au Zimbabwe, qui était convaincu d'avoir été désigné par Dieu et déclarait que tous ses actes visaient à rendre justice à son peuple, alors que sous sa présidence, des Zimbabwéens ont été tués, torturés, déplacés de force et soumis à des violences politiques ciblées. etc., etc. Donc elle dit après, le chemin de la justice, de la vérité et des réparations a toujours été incroyablement long et escarpé. Dans le cas de Ratko Mladic, les victimes et familles de victimes attendent depuis plus de 20 ans sa déclaration de culpabilité. Et des milliers d'enfants et de disparitions forcées n'ont toujours pas été élucidés. Mais ces trois cas sont toutefois notables pour trois raisons. Tout d'abord, ils servent de rappel et de mise en garde à certains dirigeants, commandants militaires et hauts responsables actuels, en leur montrant que leur immunité apparente n'est peut-être pas absolue. En avoir conscience peut avoir un puissant effet dissuasif. Cela ne mettra pas fin aux guerres et aux conflits, mais pourra réduire un peu la probabilité d'une nouvelle attaque contre des civils, d'une exécution ou d'un bombardement contre un hôpital. Ensuite, il représente le meilleur des encouragements pour celles et ceux d'entre nous qui enquêtent de façon méticuleuse sur les violations des droits humains et les dénoncent. Et cela inclut les militants en faveur des droits humains et les journalistes. C'est une incitation à poursuivre notre travail. Enfin, et c'est le plus important, chacun de ces événements, qu'il s'agisse d'une décision de justice, de la perspective d'une enquête internationale ou du départ d'un président aux politiques répressives, donne de l'espoir à des millions de personnes du monde entier et qui subissent d'énormes injustices au quotidien. Cet espoir alimente leur force et leur permet de survivre et de garder leur foi en l'humanité dans des circonstances particulièrement pénibles. Nous ne devons pas oublier qu'il est également de notre pouvoir de faire vivre cet espoir en poursuivant sans relâche notre combat en faveur de la justice. Voilà. Donc j'ai trouvé que ce petit texte, en fait, qui est tout à fait récent, était tout à fait indiqué pour ce lendemain de Noël et que voilà, ça nous permet effectivement de garder notre optimisme et de continuer à agir pour les droits humains, puisque c'est notre raison d'être, mais voilà, et de ce combat-là et de cette mobilisation-là, et dont on appelle aussi les auditeurs et les auditrices de Principe Actif à nous soutenir, on est tout à fait fiers, effectivement, de le continuer. Donc, dans le petit texte dont je viens de vous parler, il était question de protéger les civils, à un moment dans le communiqué, de protéger les civils, et on a justement un enregistrement d'une vidéo qui a été mise en ligne là, au cours du mois de décembre par Amnesty International, et donc qui parle effectivement de la protection des civils en cas de conflit, et vous allez voir, c'est tout à fait éloquent. Un petit peu de patience, parce que ça dure une dizaine de minutes.
Moi, je pense qu'ils vont plus entendre que voir.
Oui, parce que j'ai dit voir, c'est ça?
Tout à fait. Bon, sinon,
t'as pas une vidéo, j'allais voir.
J'ai récupéré le son.
Jusqu'au bout de l'année 2017, il va rester vigilant. Voilà. Attention.
J'ai récupéré le son de la vidéo, mais vous allez voir. Vous allez entendre. Ça se suffit amplement pour comprendre de quoi il s'agit.
Voir pour comprendre. Les civils dans les conflits. En juillet 2017, les forces de la coalition internationale contre l'État islamique célébraient la chute de Mossoul. Une victoire militaire payée au prix fort par la population civile. Plusieurs milliers de morts, 15 000 blessés, plus d'un million de personnes déplacées, les habitants de Mossoul, après avoir vécu l'enfer de l'occupation djihadiste, ont aussi subi pendant 9 mois, celui de la libération. Les civils sont régulièrement en première ligne dans les conflits armés. Même si la guerre ne doit pas être une zone de non-droit et que certaines des lois qui la régissent veillent à épargner les civils, la réalité est tout autre. Ils sont de plus en plus menacés. La multiplication des conflits internes et des combats en zone urbaine contribue à l'aggravation de leur situation. Les chiffres sont sans appel. Selon l'ONU, les victimes civiles en temps de guerre sont passées de 5% des pertes au début du XXe siècle à 15% pendant la Première Guerre mondiale, puis à 65% à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour culminer à 90% lors des conflits armés des années 90. Il faut bien comprendre ce que l'on entend par civil. C'est tout simplement une personne qui ne participe pas aux hostilités. Les religieux, les médecins, les journalistes qui interviennent sur les zones de conflit sont aussi des civils. Ainsi, même un membre des forces armées, s'il ne prend plus part au combat, parce qu'il est blessé ou parce qu'il capitule, est un civil. Les maisons, les immeubles, les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs, bref, tout ce qui fait le quotidien des civils et qui n'a pas de rôle militaire doit aussi être épargné. On les appelle les biens de caractère civil. Revenons à Mossoul. Les civils ont été littéralement pris au piège par les différentes parties du conflit. L'État islamique les a systématiquement utilisés comme boucliers humains et les a empêchés de fuir. Les forces irakiennes, en installant ponctuellement leurs snipers sur les toits des habitations libérées, sans évacuer les civils, les ont transformés en cibles. Des civils ont été tués ou blessés par des tirs de mortier effectués sans discrimination dans des zones fortement peuplées. À cela s'ajoutaient les bombardements incessants de la coalition dirigée par les États-Unis. Par exemple, le 17 mars 2017, plus de 100 personnes ont été tuées par une frappe aérienne à l'ouest de Mossoul. L'enfer de la guerre pour les civils, ce n'est pas seulement la mort lors des combats. C'est aussi l'horreur des disparitions forcées, de la détention arbitraire, de la torture. Ces méthodes utilisées dans les pires régimes répressifs se généralisent dans de nombreux conflits, en particulier pour opprimer les opposants politiques et terroriser la population. Du jour au lendemain, l'un des vôtres disparaît, vous êtes sans nouvelles de lui des mois durant, les autorités nient être au courant de la situation, et au final, vous ne le reverrez jamais, ou si par miracle il réapparaît, vous découvrirez le récit de ses tortures. Voilà, c'est ça les disparitions forcées. Par exemple, en Syrie, depuis le début du conflit en 2011, des dizaines de milliers de civils, présumés opposants au gouvernement, ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et ont été systématiquement torturés dans des centres de détention. Les civils subissent également des violences sexuelles, des pratiques barbares utilisées en représailles pour torturer et susciter la peur. C'est comme ça qu'au Soudan du Sud, des milliers de femmes, des filles et des hommes ont été violés et agressés sexuellement à cause de leur appartenance ethnique. Les conflits entraînent aussi des déplacements massifs de population. Contraints de fuir les combats, les civils sont jetés sur les routes, sans protection, sans perspective d'avenir. À ce jour dans le monde, plus de 50 millions de personnes ont été déplacées de force, la plupart à cause d'un conflit armé. Il faut savoir que 80% de ces déplacés sont des femmes et des enfants. Toutes ces populations civiles menacées, jetées hors de chez elles ou piégées en zone de combat, dépendent souvent de l'aide humanitaire pour survivre. En Syrie, les sièges de longue durée privent la population de nourriture et de médicaments. Des Syriens souffrent et meurent parce que la famine est utilisée comme une arme de guerre, tant par le gouvernement que par les groupes armés impliqués dans le conflit. Et pourtant, tout est prévu pour protéger les civils dans les conventions de Genève, les traités internationaux fondamentaux du droit international humanitaire. Ces conventions fixent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres d'organisations humanitaires, des blessés ou encore des prisonniers de guerre. Ces textes sont catégoriques. Toute attaque délibérée contre des civils ou des biens de caractère civil est un crime de guerre. Si cette attaque se fait à grande échelle pendant de longues périodes et si elle est systématique, c'est un crime contre l'humanité. Tous les États ont signé ces conventions et elles sont donc universellement applicables. En résumé, c'est indiscutable. Tout le monde est d'accord et tout le monde doit les respecter. Comment cela devrait-il fonctionner ? La protection des civils et des biens à caractère civil repose sur trois grands principes. La distinction, la précaution et la proportionnalité. La distinction, cela signifie que toutes les parties du conflit doivent faire la distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil. Les armes qui ne peuvent pas faire cette distinction au moment de leur utilisation sont interdites. Ce principe prohibe par exemple les bombardements aériens indiscriminés. La précaution s'applique lorsqu'une opération militaire fait peser des risques sur les civils. Elle doit être alors conduite selon des dispositions particulières. Comme par exemple, choisir le moment de l'attaque pour minimiser les pertes. Avertir à l'avance les civils, si c'est possible. Arrêter les opérations si leur impact sur la population est disproportionné. Enfin, la proportionnalité autorise l'usage de la force militaire à condition que l'impact sur les civils ne soit pas disproportionné par rapport à l'avantage militaire attendu. Pourtant, la réalité est tout autre.
Il était 7h30. Nous prenions tous notre petit déjeuner lorsque j'ai entendu un sifflement et une roquette est tombée au beau milieu de la pièce sur ma tante. Elle a été tuée sur le coup. Le feu a commencé à s'étendre et j'ai vu sa main voler. La maîtresse de maison a également été tuée sur le coup. Mes deux enfants ont été blessés et un bébé assis sur les genoux de sa grand-mère a eu le bras arraché. Les combattants de l'État islamique, postés juste derrière la porte, ne nous ont pas laissé sortir pour nous occuper des blessés ou enlever les corps. Nous les avons emmenés à la porte de derrière. Nous avons dû attendre 2 jours pour pouvoir transporter nos blessés à l'hôpital. Mes enfants et mon époux sont là-bas et je suis coincée dans le camp, sans autorisation d'en sortir. Je suis tellement inquiète pour eux.
C'est clair, Toutes les lois sont là pour protéger les civils, et pourtant leur situation est catastrophique. Il est inadmissible que leur souffrance ne soit pas traitée avec sérieux et détermination. La communauté internationale se montre scandaleusement absente. Les gouvernements doivent cesser d'affirmer que la protection des civils n'est pas de leur ressort. Pour leur venir en aide et pour les protéger, il faut agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur le terrain, pour les prendre en charge en temps réel, comme le font de nombreuses organisations. Et puis, il faut aussi intervenir auprès de nos gouvernements et des instances internationales pour que la guerre cesse d'être une zone de non-droit. Et pour cela, le droit international humanitaire devrait être une frontière absolument infranchissable pour ne pas sombrer dans la barbarie. Pour défendre des intérêts particuliers ou par pur opportunisme politique, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est montré jusqu'à présent incapable de résoudre les conflits qui ont déchiré la Bosnie-Herzégovine, le Myanmar, Israël et la Palestine, la Syrie et l'Ukraine. Alors que des États ou des groupes armés se sont rendus coupables de crimes atroces sur des civils. L'usage systématique du droit de veto ne permet pas à la communauté internationale de disposer pleinement des instruments nécessaires pour protéger les civils. Un pas décisif serait fait avec l'encadrement de ce droit de veto en cas d'atrocité de masse. Ainsi, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité feraient clairement comprendre aux responsables que le monde ne restera pas les bras croisés. Pour construire un avenir où les civils seront enfin réellement protégés, il est également crucial que les auteurs des infractions commises contre les civils soient jugés. Sans quoi les criminels continueront à commettre leurs exactions en toute impunité. Ce sont les instances de justice internationales et nationales qui doivent y veiller. Ceux qui ont ordonné ou commis des crimes en temps de guerre, comme par exemple en ex-Yougoslavie, au Rwanda ou en Sierra Leone, ont été traduits en justice. En plus d'œuvrer activement pour que les responsables des crimes de guerre rendent des comptes, il faut rappeler en permanence le droit aux décideurs. Inciter avec détermination nos gouvernements à agir face aux souffrances des civils, rappeler avec fermeté qu'il ne faut ni vendre ni transférer d'armes à des auteurs de crimes de guerre, accueillir sans discrimination des réfugiés qui fuient les pays en guerre. En résumé, pour protéger efficacement les civils, il est indispensable de prévenir et agir contre les atteintes au droit international humanitaire, de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, d'assurer une meilleure protection des personnes qui fuient les conflits, de mettre en œuvre le traité international sur le commerce des armes. Protéger les civils est une priorité absolue et il y a urgence car leur situation empire. Cela permet non seulement de réduire les pertes humaines, mais aussi de renforcer la capacité des pays en guerre à reprendre une vie normale et pacifiée une fois la dernière balle tirée. Nous devons rester collectivement mobilisés et individuellement indignés par cette situation insupportable, car n'oublions jamais que nous sommes tous des civils. Comme le disait René Cassin, il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés, en quelque partie du monde que ce soit.
Donc voilà l'enregistrement effectivement d'Amnesty International. Vous pouvez retrouver la vidéo avec les images sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, c'est suffisamment éloquent pour qu'on n'ait pas grand-chose à rajouter. Je vous rappelle quand même le chiffre qui est donné au début de cette petite information. Donc au début du XXe siècle, on estime que les victimes civiles dans les conflits armés représentaient environ 5% des morts. Et on en est, un siècle après, au niveau du pourcentage des victimes civiles, à 90%. Ce qui veut dire en fait qu'actuellement, les États font la guerre contre les populations civiles des pays qu'ils attaquent. Voilà. Donc c'est une régression absolument catastrophique du droit humanitaire. Juste pour compléter, dans les nombreux rapports qui ont été publiés sur ce qui s'est passé à Mossoul, puisque le son que vous avez entendu parle de la libération entre guillemets de Mossoul, c'est publié d'un rapport qui date de la fin 2016, donc il y en a beaucoup d'Amnesty qui ont publié sur le sujet. J'ai juste tiré un petit paragraphe d'un rapport de la fin 2016 qui disait « La situation désespérée d'une génération d'enfants est dans la balance ». Alors que la bataille sanglante pour la ville de Mossoul pourrait devenir une catastrophe humanitaire. Donc elle l'est devenue effectivement depuis, hein, évidemment. Lors d'une mission dans la région ce mois-ci, Amnesty International a rencontré des mineurs de tous âges qui présentaient de terribles blessures après s'être trouvés dans la ligne de mire entre le groupe armé, se faisant appeler État islamique, et les forces gouvernementales qui sont soutenues par une coalition dirigée par les États-Unis. Les enfants pris entre deux feux dans la bataille de Mossoul ont vu des choses qu'aucune personne, quel que soit son âge, ne devrait jamais voir. Des enfants qui non seulement ont été très grièvement blessés, mais ont également vu des parents et des voisins être décapités lors de frappes de mortier, déchiquetés par des voitures piégées ou des explosions de mines ou écrasés sous les décombres de leur logement. Voilà. Bon, inutile effectivement de continuer dans l'horrible. C'est pas le but du tout de l'émission. Et donc, comme on est quand même au moment des fêtes de fin d'année, il y a Sabine qui a eu la bonne idée de vous apporter un peu de poésie. Et donc, on va refaire une transition un petit peu rapide là. Mais maintenant, effectivement, on va laisser la parole à Jacques Prévert. Et c'est Sabine qui va vous le lire.
Alors, Étrange étranger de Jacques Prévert, qu'il a écrit en 1951, je crois. Kabyle de la chapelle et des quais de Javel, homme des pays loin, cobaye des colonies, doux petit musicien, soleil adolescent de la porte d'Italie, bourmion de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, Polak du Marais du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclave noir de Fréjus qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfant du Sénégal, dépatrié, expatrié et naturalisé, enfant indochinois, jongleur aux innocents couteaux qui vendit autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfant trop tôt grandi et si vite en allé qui dormait aujourd'hui de retour au pays le visage dans la terre et des hommes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étrange étranger, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Voilà, petit coup de chapeau.
Voilà,
aux étrangers.
Merci Sabine.
Qui
maintenant, on va faire une petite pause
aujourd'hui.
Musicale avant de vous parler longuement, juste après la pause, du délit de solidarité, dont on vous a parlé au début d'émission.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme paquetage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Trois mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillon. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Donc, de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc mardi 26 décembre. Et donc, c'est toujours le groupe d'Amnesty International d'Evreux. On vient d'entendre de Grand Corps Malade, un morceau dont il est tout à fait inutile de faire des commentaires. Il suffit d'écouter le texte et ça s'appelle Au Feu Rouge. Et là, donc, on va entamer cette grande histoire de délit de solidarité et de défense des droits des réfugiés. Et il y a d'abord Claire Lys qui va vous dire quelques mots là-dessus.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un communiqué de presse qui est paru le 18 décembre 2017, puisque le 18 décembre, c'était la journée internationale des réfugiés, pour le droit des réfugiés. Alors, en France, on sait que le gouvernement est en train de revoir la loi sur l'accueil des réfugiés et sur le droit d'asile, avec tout ce que ça peut comporter et avec toutes les interrogations et la vigilance qu'on a par rapport à ce qui se passe. Et puis là, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a donc publié un communiqué de presse le 18 décembre 2017. Donc à l'occasion de la Journée internationale des migrants et migrantes, le 18 décembre 2017, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes remet à Jacqueline Gourault, ministre auprès de Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, son rapport relatif à la situation des femmes demandeuses d'asile en France après l'adoption de la loi portant réforme du droit d'asile. Les femmes constituent un tiers des demandes d'asile chaque année en France et elles obtiennent un tiers des protections accordées, le plus souvent sous la forme d'une protection subsidiaire, régime moins favorable que celui de réfugiés. La loi du 29 juillet 2015 relatif à la réforme du droit d'asile, reprenant des propositions formulées par le HCE, a permis de mieux prendre en compte les spécificités des femmes demandeuses d'asile par la reconnaissance du genre et de l'orientation sexuelle comme motif de persécution, la prise en compte du fait d'avoir été victime de viol ou d'autres formes graves de violence de genre dans l'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs ou demandeuses d'asile. La possibilité d'accompagnement par une association de défense des droits des femmes lors de l'entretien individuel. L'obligation de formation des agents ou agentes sur la notion de vulnérabilité. Le Haut Commissariat à l'égalité entre les femmes et les hommes salue les jalons d'une prise en compte du genre dans le parcours. Salut les.
Le haut conseil.
Il y a Sabine.
Commissariat. Il y a Sabine. Laisse le commissariat.
Mais c'est parce que je.
Il y a Sabine qui supervise la lecture de Claire Lise. On
l'explique. Parce que, depuis tout à l'heure, je me dis, il ne faut pas que je fasse le lapsus entre HCE et HCR, au commissariat, aux réfugiés. Et ben, donc c'est forcément, fait. Je l'ai fait.
Ben
voilà.
Oui. Mais on te pardonne, hier c'était la fête.
Mais c'est voilà. Ça même.
Et moi,
oui.
Je m'en suis même pas rendu compte, tu vois.
Oh, bah toi, oui, t'as bien fait la fête hier et puis tout le week-end, oui. Alors, donc,
bon bah, je dis plus
le HCE salue les jalons d'une prise en compte du genre dans le parcours de demande d'asile et appelle à des efforts plus ambitieux. En effet, le défaut de prise de conscience de l'ampleur des violences sexuelles font encore obstacle à une réelle place pour les femmes dans la politique de l'asile. Leur persécution est rarement perçue comme politique. Leur exposition massive aux violences dans leur pays d'origine, viols dans les zones de conflit, mariages forcés, mutilations sexuelles, violences intrafamiliales, traite des êtres humains, ou lors du parcours migratoire, est largement sous-estimée et peu prise en compte. Afin de permettre une réelle protection des femmes demandeuses d'asile, qui sera garantie par le statut de réfugiée, tout comme par les dispositifs associés, le HCE recommande de mieux prendre en compte la situation des demandeuses d'asile. En reconnaissant que l'engagement en faveur des droits des femmes puisse être un motif de persécution lié au genre, qui donne pleinement droit au statut de réfugié. Donc lutte contre les viols comme arme de guerre, contre les mutilations sexuelles féminines et contre les mariages forcés. En accélérant la formation sur les violences sexuelles des agents ou agentes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire l'OFI, en particulier sur la détection des signaux de violence, d'exploitation sexuelle ou de traite des êtres humains, puisque l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité constitue la première et l'une des rares occasions de s'entretenir individuellement avec la demandeuse d'asile sans protecteur. En créant des places d'hébergement en non-mixité pour les femmes isolées et les chefs de famille monoparentales en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou demandeuses d'asile, le CADA, afin de garantir leur sécurité et la protection contre les violences d'ex-conjoints et leur exposition à des réseaux de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Les femmes ne bénéficient à ce jour d'aucun dispositif de mise à l'abri contre les risques de violences sexuelles ou d'embrigadement dans des réseaux prostitutionnels. En améliorant globalement les conditions d'accueil pour tous et toutes les demandeurs d'asile, respect du délai fixé par la loi de 3 jours pour l'enregistrement de la demande partout en France, je vous en reparlerai tout à l'heure, renforcement des équipes au sein des préfectures et de l'OFI, revalorisation du tarif journalier d'hébergement, accompagnement psychologique et apprentissage du français dès l'entrée en centre d'accueil. Pour la présidente du Haut Conseil à l'égalité, Danielle Bousquet, améliorer l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile et renforcer la protection des femmes persécutées en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle et de leur engagement féministe est une exigence républicaine. Donc vous pouvez revoir le rapport « Situation des femmes demandeuses d'asile en France après l'adoption de la loi portant réforme du droit d'asile » dans son intégralité sur le site http://bit.ly/2c73 X7H.
Wow, je ne sais pas si les auditeurs ou auditrices auront eu le temps de noter, non. Mais on peut retrouver sur Internet. Hein, donc, au commissariat à l'égalité, HCE, et vous tombez sur
au
le
conseil.
Site. Et vous tombez sur le rapport aussi.
Bon, au conseil à l'égalité.
Donc, on va parler longuement, on va parler longuement des comment dire, des délits de solidarité.
HCE.
Oui, Renan.
C'est
tu voulais dire, Renan ?
Ah non, moi je veux rien dire. Ah bon. On est en train de discuter avec Sabine parce qu'elle a un problème de casque.
Ah, c'est un problème
de casque. Je m'entends pas.
Bon. Et donc après Sabine, je reviendrai sur ce qui se passe à Évreux pour m'énerver un peu avant la fin de l'année.
Pour présenter ce dossier sur le délit de solidarité, un petit son qu'on a récupéré aussi sur le site d'Amnesty et c'est Jean-François Dubost qui en parle.
À la frontière franco-italienne, il y a de nombreuses violations des droits, des personnes qui tentent de franchir cette frontière, certaines pour trouver refuge sur le territoire français. Et cette situation n'a pas laissé insensibles en fait, les habitants, les citoyens, des groupes de personnes qui habitent sur cette zone, à cette frontière. Et ils ont décidé d'intervenir, soit certains pour donner des vêtements, fournir de la nourriture, ou alors donner des médicaments, permettre d'accéder à des soins, ou encore fournir des conseils juridiques pour aider ces personnes à faire valoir leurs droits. Et des personnes comme Cédric Héroux, qui est la personne peut-être la plus connue, mais il y en a bien d'autres également, ont été poursuivies par le procureur de la République parce que les autorités considèrent que tous ces agissements-là, en fait, sont des façons d'aider les personnes à entrer, à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, ce qui en France est une infraction pénale. Alors que pour nous, eh bien, tous ces gestes sont des gestes d'humanité, de solidarité, qui ne devraient pas être punis par la loi. À la frontière franco-italienne, comme aux autres frontières de France, les contrôles ont été rétablis du fait de l'état d'urgence. Cela signifie que les personnes sont contrôlées, sont interceptées, arrêtées, notamment lorsqu'elles n'ont pas un visa pour rentrer sur le sol français. C'est valable effectivement aussi, en particulier pour les personnes migrantes et réfugiées. Lorsque nous sommes rendus sur place, dans le cadre de notre mission à Amnesty International, nous avons constaté que ces personnes-là, leurs droits n'étaient pas respectés de façon systématique par les autorités françaises. Il y avait d'abord des renvois illégaux vers l'Italie, c'est-à-dire des renvois où les personnes n'avaient pas de décision en poche, on ne leur avait pas, ou alors on leur a donné une décision mais il n'y avait pas d'explication, elles n'avaient pas connaissance des raisons pour lesquelles elles étaient renvoyées, ni même des droits qu'elles pouvaient faire valoir. On a aussi constaté qu'il n'y avait quasiment pas de possibilité de demander l'asile, alors même que ces personnes sont à première vue des réfugiés, il s'agit d'Érythréens, de personnes qui viennent de l'Afghanistan, du Soudan, donc des personnes qui ont un besoin d'être protégées, en Europe et en France en particulier. Donc ce n'est pas le cas à cette frontière. Et puis enfin et surtout, l'élément le plus grave pour nous, c'est que parmi toutes ces personnes, il y a des enfants qui ne sont pas accompagnés par leurs parents, et ces enfants-là sont traités de façon tout à fait identique, comme s'ils étaient des adultes par les autorités françaises, ce qui n'est pas normal parce que ces enfants sont en grande vulnérabilité et qu'ils ont besoin de protection, et ça c'est prévu par la loi française et ce n'est pas respecté à cette frontière. Il y a trois solutions pour tenter de remettre la situation à l'endroit, dans le bon ordre, à la frontière franco-italienne. La première, c'est qu'il faut à tout prix cesser les renvois illégaux vers l'Italie. Les renvois illégaux, cela signifie des personnes qui sont renvoyées dès qu'elles posent le pied sur la frontière française ou sur le sol français, sans avoir eu une décision écrite qu'elles ont pu comprendre avec un traducteur, sans avoir eu la possibilité de déposer éventuellement recours ou même de solliciter l'asile. Ça, c'est la première mesure. Solliciter l'asile, justement, c'est la seconde solution. Il faut que les personnes qui souhaitent déposer une demande de protection pour être protégées par la France puissent le faire, soient entendues et voient leur demande d'asile enregistré et examiné. Puis la dernière solution concerne bien évidemment les enfants non accompagnés, c'est-à-dire sans leurs parents, hein, qui sont seuls. Ces enfants-là ne doivent absolument pas être traités comme les adultes, comme c'est le cas jusqu'à présent. Ces enfants doivent être accueillis en France, protégés. Cela signifie qu'on doit leur faire passer la frontière et puis surtout qu'ils soient pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Voilà, donc une présentation faite par Jean-François Dubost et d'Amnesty. Et donc c'est Sabine qui va vous parler d'un cas qui nous préoccupe beaucoup parce que ça nous concerne directement une de nos militantes.
Oui, de Martine Landry qui est poursuivie pour délit de solidarité. Donc elle est militante d'Amnesty et elle va être jugée à Nice le 8 janvier 2018. On lui reproche d'avoir facilité l'entrée de deux mineurs étrangers en situation irrégulière. Elle risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Elle est engagée auprès d'Amnesty International France depuis 2002. Elle est en charge d'une mission d'observation de la frontière entre la France et l'Italie pour Amnesty International et est accusée de faire appliquer la loi sur la protection des mineurs. Le 28 juillet 2017, la police italienne a renvoyé à pied deux mineurs étrangers isolés vers la France. Martine Landry les a récupérés au poste frontière Menton-Vintimille du côté français pour les accompagner à la police aux frontières. Munis des documents attestant de leur demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Les deux mineurs, tous deux âgés de 15 ans et d'origine guinéenne, ont par la suite été pris en charge par l'ASE. Le 31 juillet, Martine s'est rendue à la PAF de Menton suite à l'interpellation et au transfert de 11 migrants. Ce jour-là, elle se voit remettre une convocation pour une audition le 2 août. Le lendemain, Martine Landry reçoit une convocation du tribunal correctionnel de Nice. Elle doit être jugée le 8 janvier 2018 pour avoir facilité l'entrée de deux mineurs étrangers en situation irrégulière, en ayant pris en charge et convoyé pédestrement ces deux mineurs du poste frontière côté Italie au poste frontière côté France. À la frontière française, des enfants non accompagnés ne font pas l'objet de l'attention requise au regard de leur situation de vulnérabilité. C'est pourtant ce qu'exige la législation française relative à la protection de l'enfance. Les enfants sont renvoyés au même titre que les adultes, de façon expéditive et sans possibilité d'exercer leurs droits, ni même d'être accompagnés. Martine est une militante expérimentée, respectueuse du droit et qui connaît parfaitement le cadre juridique dans lequel son action s'inscrit. Elle est également référente régionale à Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la question des réfugiés et migrants depuis 2011 et chargée d'une mission d'observation en zone d'attente. En parallèle, elle participe aux missions militantes de conseil aux demandeurs d'asile et d'accompagnement dans l'accès à leurs droits, missions pour lesquelles elle a bénéficié de plusieurs formations. Par ailleurs, en dehors de ses activités pour Amnesty, elle est engagée au sein de différentes associations locales et nationales pour la défense des migrants et des réfugiés pour l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, l'ANAFE, l'injuste délit de solidarité. Ces personnes qui aident les réfugiés sont inquiétées, intimidées, poursuivies alors qu'elles défendent avant tout les droits humains. Elles agissent pour protéger les droits des personnes migrantes et réfugiées auxquelles portent atteinte les autorités françaises. Ces personnes sont des défenseurs des droits humains et ils doivent bénéficier de la protection de l'État. Alors que depuis plus de 2 ans, nos organisations dénoncent les violations du droit international européen ou français à la frontière franco-italienne par les autorités françaises. Ces dernières intimident et poursuivent celles et ceux qui tentent de protéger les droits humains de personnes aussi vulnérables que des mineurs isolés. Une criminalisation insupportable. Le procès de Martine doit être l'occasion pour le gouvernement français de modifier sa législation qui permet, comme cette situation le démontre, de criminaliser l'aide apportée par des citoyens pour protéger des droits des personnes migrantes et réfugiées. Il est urgent et indispensable que la politique du gouvernement français soit réorientée de façon à répondre à l'impératif du strict respect des droits des personnes migrantes et réfugiées qui franchissent la frontière franco-italienne et à la nécessaire protection de celles et de ceux qui leur apportent leur aide.
Donc n'hésitez pas à aller sur la page du site d'Amnesty hein, consacrée à Martine pour apporter votre soutien.
Signer la pétition.
Et donc il y a Claire Lise qui piaffe d'impatience pour vous dire aussi tout ce qu'elle a sur le cœur.
Et là, c'est en France que ça se passe.
C'est en France et c'est à Évreux. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe à Évreux par rapport justement aux demandeurs d'asile. Vous savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis aussi membre du CFED Asti d'Évreux, qui est une association qui tient des permanences et qui aide les personnes à régulariser leur situation, ou les personnes en situation de demande d'asile, on les aide à rédiger leur récit et puis à voir si tout se passe bien. Et puis, en fait, plus ça va, moins ça se passe bien. Voilà. Donc, actuellement, on est au mois de décembre 2017. Lors des permanences que je fais le samedi matin à la Madeleine, je vois surtout venir des adultes, des femmes avec des bébés. Je vous avais dit la révolte qu'on avait eue cet été quand on avait vu que des femmes étrangères qui avaient un bébé né du... Le bébé était français parce qu'il était... Il y avait c'était un enfant d'un parent français et elles se retrouvaient à la rue et elles ont même eu des obligations à quitter le territoire français. Donc ça, déjà, c'était révoltant, sachant que dès qu'elles ont une OQTF, si elles appellent le 115 et qu'elles sont à la rue, elles ont droit à rien parce qu'elles ont une OQTF. Donc ça, c'était déjà révoltant. Et puis donc, lors des permanences, on voit aussi arriver maintenant des personnes qui sont demandeuses d'asile et qui nous disent
Oui, mais je passe à France Terre d'Asile, mais on me donne aucun papier. Et on me dit de revenir dans 15 jours, et puis dans 15 jours, et puis dans 15 jours. Tout à l'heure, dans le texte, on disait que le droit d'asile, normalement, quand il se présente dans les locaux de France Terre d'Asile ou des autres lieux pour faire enregistrer la demande, normalement, la demande, elle doit être enregistrée sous 3 jours. Actuellement, il y a un dysfonctionnement au niveau de la préfecture de Rouen, puisque c'est à la préfecture de Rouen qu'on enregistre les demandes d'asile. Donc, il y a une liste d'attente. Et donc, avant, quand les demandeurs d'asile sur Évreux allaient à France Terre d'Asile, on enregistrait leur venue et ils avaient ce qu'on appelle une fiche d'accueil, avec la date à laquelle ils s'étaient présentés à France Terre d'Asile, qui attestait qu'ils étaient, ils étaient arrivés à cette date-là, on avait enregistré leur demande, et le rendez-vous à la préfecture avait lieu 1 mois, 2 mois plus tard. Maintenant, quand ils se présentent à France Terre d'Asile, il y a une telle attente, il y a un tel dysfonctionnement, qu'on n'enregistre pas leur demande tout de suite, on leur donne aucun papier. Parfois, on les fait attendre 1 mois et demi, 2 mois, avant de leur donner le fameux papier. Et le rendez-vous a lieu, pas tout de suite, hein, mais 1 mois ou 2 mois après. Or, pour demander asile en France et pour être considéré en procédure normale, il faut faire sa demande moins de 120 jours après son arrivée en France. Donc, si on dépasse le délai de 120 jours après être arrivé en France, on se retrouve en procédure accélérée. C'est-à-dire qu'en procédure accélérée, on n'a pas le droit à l'allocation de demandeur d'asile, en général. Et en plus, l'OFPRA, généralement, refuse la demande d'asile des personnes en procédure accélérée et il faut faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile. Donc, bon, ça limite quand même les chances d'obtenir l'asile. Alors, il y a quand même des personnes qui obtiennent l'asile même si elles étaient en procédure accélérée. Mais ce qui est scandaleux en ce moment, et on le voit là depuis le mois de octobre, novembre, c'est que des gens qui se présentent à France Terre d'Asile Évreux n'ont aucune fiche d'accueil et attendent parfois 1 mois, 1 mois et demi avant d'avoir cette fiche d'accueil et avant d'avoir un rendez-vous à la préfecture. Et on a vu plusieurs personnes se retrouver en procédure accélérée parce qu'elles n'avaient pas été enregistrées à temps et c'est scandaleux et c'est contraire à la loi française. Ensuite, je m'énerve encore.
T'as raison.
Lors des permanences, on a vu aussi arriver, et ça c'est nouveau, c'est depuis le mois de décembre, des mineurs isolés qui arrivent à la permanence du CEFED. Alors les mineurs isolés dans le département de l'Eure, c'est souvent les membres du réseau d'éducation sans frontières qui s'en occupent et qui s'en occupent très très bien. Et c'est vrai que quand on a connaissance de mineurs isolés, on les oriente plutôt vers RESF 27 parce qu'ils ont un réseau de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale et aussi de psychologues et de gens qui un réseau aussi d'aide pour soutenir et aider ces jeunes et ils le font très très bien. Ils sont surchargés parce qu'ils ont vu beaucoup de jeunes mineurs isolés arriver, de plus en plus nombreux. Et les mineurs isolés sont normalement pris en charge par l'ASE. Vous connaissez, on vous en a déjà parlé, la loi sur les tests osseux qui est encore pratiquée. Et récemment, au mois de novembre, un jeune garçon de 16 ans s'est retrouvé rejeté par de l'ASE parce que les tests osseux de l'hôpital d'Évreux ont considéré qu'il avait plus de 18 ans. Et donc, il se retrouve à la mala, c'est-à-dire à la mise à l'abri avec des adultes. Alors, sachant que ce sont des jeunes qui ont déjà des parcours chaotiques, qui sont déjà fragilisés, qui sont vulnérables, ils se retrouvent avec des adultes qui, eux aussi, ont eu des parcours chaotiques, mais qui ne sont pas tous faits pour accompagner des jeunes mineurs. Donc, voilà, il y a des situations qui sont dramatiques et qui sont scandaleuses sur Évreux. Il y a aussi des déboutés du droit d'asile qui logent dans des voitures. Et là, j'ai un petit coup de chapeau à l'association Un Toit Sous la Main qui essaye de répondre aux besoins des personnes qui n'ont plus aucune solution de logement puisqu'ils sont rejetés par le 115 parce qu'ils ont des OQTF pour essayer de les mettre à l'abri et de les loger. Et donc, il y a le travail de cette association. Je vous invite à aller voir le site de Un Toit Sous la Main Évreux puisqu'ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour quelques familles qui sont en difficulté. Voilà, donc au lendemain de Noël, alors qu'il y en a qui sont bien au chaud, je pense à Monsieur le maire, qui est bien au chaud avec ses convictions, je pense à lui et je pense à tous les gens qui sont dans la rue ou qui sont mal logés. Et je vous rappelle...
C'est des copains à lui, ses convictions.
C'est en deux mots, conviction, quand je parle de lui. Et donc, en restant poli. Et donc, je repense à ce qu'il a dit lors d'une audience publique, hein, que les demandeurs d'asile, quand il n'y avait rien d'ouvert dans Évreux, alors c'est vrai que c'est un devoir de l'État, c'est un devoir de la préfecture, mais c'est un devoir de tout le monde. Je pense à toutes les personnes qui actuellement accueillent des mineurs isolés chez eux pour les protéger, ou accueillent des réfugiés chez eux. Il y en a beaucoup autour d'Évreux, il y en a beaucoup dans le département, il y en a beaucoup en France, parce que c'est un devoir...
D'humanité.
Et lui, bien au chaud dans ses convictions, qui avait dit oh bah non, on n'ouvre pas les locaux pour les demandeurs d'asile. Oh bah, la médiathèque, elle sera ouverte les dimanches, ils ont qu'à aller à la médiathèque. Ben, rendez-vous à la médiathèque tous les dimanches, s'il vous plaît, pour, avec les gens qui sont dans la rue, pour prendre au mot Monsieur le maire une deuxième fois, parce que je crois que je l'ai déjà dit l'année dernière, en 2016, et que rien n'a bougé. Juste voilà, bonne année.
Juste un petit commentaire sur ce que vient de dire Claire-Lise. D'une part, Amnesty fait partie de, avec beaucoup d'autres ONG, demande la suppression de cette notion de test osseux par rapport à la structure des dossiers, purement et simplement, parce que c'est tout à fait inadmissible comme, comme procédure. Et deuxièmement, ça nous renvoie effectivement à tout ce qu'on a dit par rapport au délit de solidarité. Et la solidarité ne saura jamais être un délit, c'est clair. Voilà, on passe quelques secondes de musique avant de se dire au revoir.
Incendié par la guerre, écrasé de soleil, les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, on nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombre parmi les ombres, des longs couteaux tirés. À deux doigts de l'Europe, on a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant les barbelés, sur le ciel minéral. Tu commences à ramper, en dessous du silence et dans l'oubli total. croisière méditerranéenne, sourire carnassier de Murène, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme le train. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Bien de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux. Pour terminer, la dernière émission 2017 pour la défense des droits humains. Et avant de se retrouver, bien sûr, pour la première de l'année 2018, le mois prochain.
Et nous venons d'écouter Bernard Lavillier, Croisière Méditerranée.
Voilà, très bien.
Ce qui merci, fait très plaisir.
Merci Ronan. Il faut surtout dire merci à Edith. Parce
son nouveau CD.
C'est Edith qui m'a soufflé le titre du morceau l'autre jour et qui m'a dit, si t'as le temps, tu passes-le à la prochaine émission. Donc voilà,
marrant,
merci Edith.
C'est marrant parce que moi j'y ai pensé aussi, je l'avais dans la voiture et c'est vrai
c'est
que...
C'est 5 minutes au paradis le CD.
Bon, oui, peut-être, mais c'est Croisière Méditerranée surtout qui est bien.
Et on vous garantit qu'on est sponsorisé par personne, Bernard Lavillier non plus.
Non, mais Bernard Lavillier, c'est un chanteur que j'adore et que je vais voir dans 15 jours. C'est juste un petit aparté.
Bien, voilà. Alors, on est le 26 janvier, le 26 décembre.
26 janvier.
Ah ouais, et là, t'avances vite. Là.
Oh, c'est quoi, on est confus dans la période des fêtes, c'est vrai. Oui, tu voulais dire ?
Mais vas-y.
D'accord.
Donc, je crois qu'il y a Sabine qui voulait vous parler aussi d'une pièce de théâtre, parce que pendant la période des fêtes, c'est aussi intéressant de penser à tout ce qui est artistique, bien évidemment.
Oui, alors c'est l'ultime course de Samia, qui est de Pékin à Lampedusa, avec Malika, Erjohani, texte et mise en scène par Gilbert Ponte, au théâtre de l'Essaillon, 6 rue Pierre de l'Arf. Paris 4e, lundi et mardi jusqu'au 9 janvier 2018. C'est l'histoire vraie et tragique d'une jeune athlète somalienne qui a 16 ans, rêvait de Jeux Olympiques, voulait être une championne. Elle le sera, mais à quel prix? Elle est née en 91, l'année où la guerre civile a éclaté en Somalie, après la chute du président Siad Barre. En 2007, elle doit arrêter sa scolarité à la mort de son père, tué en pleine rue de Mogadiscio, s'occupe de ses 5 frères et sœurs pour permettre à sa mère de tenir l'épicerie familiale. Elle réussit à intégrer l'équipe qui présente les Jeux Olympiques, la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Une immense victoire, un moment magique. Elle s'est sentie importante, s'exclame-t-elle avec un large sourire. Samia est oubliée de tous très rapidement. Et comme des milliers d'autres, elle n'atteindra jamais les côtes italiennes. Elle est partie à un moment donné pour quitter, pour fuir à nouveau. Et elle décède en Méditerranée sur un canot pneumatique en 2012, l'année des Jeux Olympiques de Londres, auxquels elle rêvait de participer. Comme Gilbert Ponte racontait ses histoires, c'est dire à la jeunesse dorée de nos pays que le monde appartient aux hommes et aux femmes passionnées. C'est dire que le monde peut changer. L'ultime course de Samia au théâtre de l'Essaillon, si vous pouvez y aller. C'est une très belle pièce.
Merci. Ça me fait penser, parce qu'on vient parler de la Somalie. On n'aura pas le temps de le dire aujourd'hui, mais j'y reviendrai à la prochaine émission. Il y a un rapport d'Amnesty qui est paru juste avant Noël et qui parle de la fermeture du camp de Daba au Kenya. C'est le plus grand camp de réfugiés au monde à l'heure actuelle. Il abrite 240 000 personnes. Le Kenya est obligé de le fermer officiellement pour des raisons financières, parce que la communauté internationale ne finance plus suffisamment, du moins c'est la raison qui est invoquée. Et les personnes sont envoyées actuellement effectivement en Somalie, où elles vont se retrouver dans l'impossibilité d'avoir le moindre toit, la moindre protection, et même, d'après ce que peut savoir Amnesty, ne plus avoir ni à manger, ni à boire. 240 000 personnes. Donc ça a commencé juste avant Noël. Et donc le rapport vient d'être publié par Amnesty. Et Amnesty qui conclut aussi en disant que le pays qui recueillait le plus de réfugiés somaliens à l'heure actuelle, ce sont les États-Unis, et que M. Trump vient de mettre, enfin il y a quelques mois, la Somalie parmi les pays dont il refusait toute émigration de réfugiés. Donc, M. Trump, pour parler simplement, condamne à une mort certaine 240 000 personnes. On ne lui souhaitera certainement pas bonne année.
Oh, mais lui aussi, il a des convictions.
Voilà. Donc voilà, mais j'y reviendrai plus longuement, je pense, dans la prochaine émission. Il nous reste, monsieur le technicien, combien de temps à finir?
J'irai 1 minute 25.
Bon.
À la précision.
Donc on va d'une minute 25, on a juste le temps de souhaiter une bonne année 2018, bien sûr, à tout le monde. Une
très bonne fin d'année déjà.
Une très bonne fin d'année, une bonne année 2018. N'oubliez pas d'aller sur le site d'amnesty.fr, n'oubliez pas de lire la chronique, n'oubliez pas de nous soutenir dans nos manifestations, parce que pour que les droits humains effectivement évoluent, c'est la mobilisation de tous qui compte. Et on se retrouve le mardi 16 janvier.
Allez, bonne
19h sur l'antenne de Principe Actif.
Bonne fête à tout le monde.
Bonne année.
Bonne année.
Bonne année.